Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse.
Amis auditeurs, bonjour, Jean-Jacques Chavanne avec vous pour cette nouvelle émission de la Ligue des droits de l'homme. Au nom de l'égalité des droits de tous, la Ligue des droits de l'homme prône une société inclusive pour les personnes en situation de handicap. Notre précédente émission était consacrée à l'inclusion des handicapés en milieu scolaire. Aujourd'hui, je vous propose un second volet sur le thème de l'inclusion des personnes en situation de handicap élargie à l'ensemble de notre société. Asensio Garcia, de la Ligue des droits de l'homme, est allé interviewer Charles Gardou, anthropologue du handicap dont la parole fait référence à l'occasion d'une conférence Fratrie et Handicap qui se tenait à Jasseron. Je vous propose de l'écouter.
Bonjour à vous, merci beaucoup de m'accueillir ici, dans cette belle commune de Jasseron.
Nous sommes heureux, nous aussi. Donc Jean-Jacques vient de porter un élément extrêmement puissant, ce qui nous concerne la section des droits de l'homme, pour ce qui concerne la problématique de l'accès aux droits de tous. Vous êtes engagé depuis fort longtemps. Et vos écrits et vos propos confirment la nécessité de cet engagement pour nous autres aussi. Et donc ma première question, c'est que ce soir, donc, c'est la famille qui a été le fil conducteur de votre intervention. Souffre-t-elle d'un manque d'accès à ses droits fondamentaux ?
Oui, quand on parle des situations de handicap, on parle des personnes directement touchées dans leur corps ou leur esprit, et elles sont nombreuses, vous voyez, à l'échelle mondiale. Le dernier rapport de l'OMS et de la Banque mondiale indiquait qu'il y avait environ 15% de la population mondiale qui vivait peu ou prou une situation de handicap. Vous voyez que ce n'est pas simplement une population homéopathique qui circulerait sur le trottoir d'en face, quelque chose de très central. Et bien sûr, les résonances du handicap, elles touchent une personne et elles touchent sa famille. Elle touche des parents, elle touche des frères et sœurs. Et c'est vrai que dans des contextes culturels différents, celui de notre pays est singulier, comme tous d'ailleurs, il y a des sentiments de solitude de la famille. Parce que cette épreuve, parce qu'il s'agit d'une épreuve, impacte la famille à différents niveaux. Une famille préoccupée du devenir d'un enfant, comme nous le sommes tous, d'une scolarité, d'un accès au travail, d'un accès aux droits fondamentaux. C'est le thème de votre émission. Et vous avez bien raison, parce que c'est une question excessivement cruciale.
Et quels sont les progrès que vous avez pu constater, on va dire, dans la dizaine d'années qui viennent de s'écouler ?
Alors, il y a des progrès. Il y a une déclaration universelle des droits de l'homme, et vous n'êtes pas sans savoir qu'on a besoin en permanence de se le rappeler, notamment pour certaines populations. C'est ainsi qu'il y a 9 traités des droits fondamentaux. On a eu besoin d'accentuer pour les droits des femmes, qui souvent ont été l'objet de discrimination dans le grand récit de l'humanité. On a eu besoin de le faire pour l'enfant et en 2006, et on l'a fait pour les personnes en situation de handicap à travers la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, constatant que, à l'échelle du monde, à des degrés divers, elles étaient toujours victimes de discrimination, de privation d'accès à des droits fondamentaux. C'est aussi le sens de la loi du 11 février 2005, qui est une loi qui est d'ailleurs intitulée « Droit pour l'égalité des chances, l'égalité et la participation ». Vous voyez, on met l'accent là-dessus. La France a signé la Convention de l'ONU, elle l'a ratifiée, et c'est une convention qui est un instrument juridiquement contraignant en ce qu'elle a primauté sur le droit. Et elle nous appelle à lutter contre toutes ces formes de mise à l'écart de droits établis pour tous et pour chacun. Les droits ne valent que s'ils sont universels.
Quels sont ceux qui sont les plus difficiles d'accès pour les familles, puisque le thème, c'est bien celui de la famille.
Oui, on s'est malheureusement trop habitué au fil de l'histoire à ce que des personnes et leurs familles soient privées de droits fondamentaux. Prenons un exemple précis, c'est le droit, ce que j'appelle le droit d'enfance. C'est le droit à l'éducation. Quelque forme que prenne cette éducation. Il ne s'agit pas de penser quelque chose de monolithique, mais ce droit à l'éducation est un droit premier. Qui ne sait qu'être privé d'éducation, c'est être privé de socialisation, de devenir, d'une vraie participation à la vie sociale. c'est pas évident de faire.
Ça se passe bien. Je me permets de vous interrompre. Ça se passe bien aujourd'hui à l'école, par exemple, ou dans les collèges?
Alors, depuis la loi de 2005, qui est une loi importante et qui est une belle loi d'ailleurs, mais qui est une loi étape, eh bien, on peut penser, sur le plan quantitatif notamment, qu'il y a eu une amélioration tout à fait considérable. Il y a, si ma mémoire est bonne, de l'ordre de 80% d'enfants en plus en situation de handicap inscrits dans l'école ordinaire. Donc ça, c'est sur le plan quantitatif. Sur le plan qualitatif, il faut y regarder de plus près, parce que, compte tenu de l'impréparation des acteurs, notamment de l'éducation nationale, il y a un déficit en termes souvent de pédagogie, de didactique, d'adaptation des rythmes, des temporalités, et c'est là qu'il nous faut travailler. Nous avons, je crois, fait des progrès tout à fait considérables. Nous avons ouvert la porte, mais il faut que la maison soit rendue plus confortable pour les élèves qui en ont le plus besoin.
En quelque sorte, vous prenez une accélération des contenus de formation concernant ce public spécifique au moment de la formation des maîtres, par exemple?
Oui. Alors ça, c'est vous touchez un point là tout à fait important. On ne peut pas penser que des maîtres impréparés, qui n'ont pas reçu des fondamentaux sur ces questions, seront à l'aise par rapport à un enfant qui présente des difficultés particulières. Ce sont genre des enfants qui souffrent de troubles du spectre de l'autisme. Il y faut une préparation minimum. Il faut adapter sa pédagogie. Comme je l'ai dit, il faut adapter son rythme. Il faut que ces enfants soient accompagnés, là aussi, à des degrés divers. Il faut que les accompagnateurs, ce qu'on appelle les AESH aujourd'hui, soient également formés et qu'ils ne soient pas dans des turnovers permanents, quand les enfants les plus fragiles méritent plus de stabilité. Vous voyez, l'affaire de la formation, c'est ce qui va agir sur la culture de l'école. Pourquoi en sommes-nous là? Non pas parce qu'on est mal inspiré, la question n'est pas là. Il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit. Il faut se dire qu'on s'était habitué dans la culture géo-chrétienne à ce que, quand on a à faire face au handicap, on le fonde sur une compassion, un humanisme, un grand cœur. Mais il y faut des savoirs, il y faut des stratégies particulières. Et dans le domaine de l'école, il faut des pédagogies. Et ça, il faut y préparer les acteurs.
Mais c'est bien de technicité que vous parlez. Pour accéder au métier, c'est la formation professionnelle. On constate que beaucoup de ces publics spécifiques ont des difficultés à, par exemple, entrer en apprentissage ou simplement trouver une place dans un lycée professionnel, par exemple. Est-ce que vous imaginez que nous puissions, à un certain moment, trouver les outils d'information et de formation et lesquels pour les professionnels et ces secteurs professionnels-là?
Alors là, de manière latente, vous parlez du continuum à établir.
C'est ça.
Il faut travailler sur un continuum. Si on veut une société inclusive, moi je l'oppose directement à une société exclusive, il faut travailler autour de la famille, comme je l'ai dit, qui peut vivre des formes de solitude. Il faut travailler dans les structures petite enfance, il faut travailler dans l'éducation, de l'école jusqu'à l'université, il faut travailler dans les organismes de formation, de manière à préparer des personnes en situation de handicap à être employées. Et il faut aussi beaucoup travailler sur l'apprentissage. Alors, il y a des choses aujourd'hui qui se font. On sent un frémissement dans l'entreprise. Les chiffres ne sont pas excellents sur ces questions-là. Vous voyez, les quotas, le quota de 6%, si je me tourne vers le secteur privé, on est à 3, on n'est pas à 6. Les organismes de formation doivent encore faire beaucoup d'efforts. Mais il y a quand même une volonté qui s'exprime. Il y a un mouvement en cours, fut-il imparfait. Il y a quelque chose qui se joue. Moi, je le sens à ma petite mesure dans ce que je peux faire. On ne peut pas le négliger. Les progrès, la question qui se pose, c'est que les progrès ne sont pas assez rapides à l'échelle d'une vie humaine. C'est-à-dire que je crois que les parents attendent que ça aille vite, évidemment, parce que nos vies respectives sont courtes, et les changements sont sur des temps longs. Mais le mouvement est en cours. Le mouvement est en cours, il est à amplifier parce qu'on a eu l'image jusqu'à présent, tout à fait déformée, déformante, d'une personne en situation de handicap qui était systématiquement improductive. On ne savait pas lire ses potentiels, ses talents, ses qualités. On le déclarait a priori inadapté au monde du travail qui se veut productif. Vous savez, la question qui se pose de fond pour faire exercer les droits, c'est quel sens donne-t-on au travail ? Quel est le sens du travail? Est-ce qu'on le vit simplement comme une contrainte ou est-ce qu'on le pense aussi comme une libération d'un être humain qui a besoin pour exister de faire œuvre? Est-ce qu'on peut se satisfaire qu'il y ait des gens qui restent désœuvrés toute leur vie et qui se sentent inutiles? Réponse est non. Le sens du travail, c'est de permettre à l'être humain de faire œuvre et de se réaliser.
Vous évoquez du coup, à travers votre propos, la question de la prise d'autonomie, la sortie de la famille. C'est une des problématiques principales des parents en particulier. Il y a parfois des solutions. Les centres, les CAT par exemple, étaient des lieux où on trouvait des réponses. Mais des familles refusent l'intégration par le travail et sont plutôt dans votre logique d'inclusion. Ont-elles raison ?
Alors, je crois que la question de l'autonomie ne peut pas se voir dans l'absolu. L'autonomie, c'est un processus qui s'accompagne. Hein. Et on ne peut pas parler d'autonomisation pour des personnes plus fragiles que d'autres sans parler de l'accompagnement vers un processus d'autonomie. Et on comprend bien les familles qui ont besoin, qui ont le désir de protéger leur enfant en se disant la sécurité exige, je ne peux pas le faire partir seul, sans étayage. Et en même temps, c'est nécessaire. Donc cette question d'autonomie, elle est très paradoxale. Et je pense que les lieux, vous citiez les ESAT ou d'autres lieux, je pense aux entreprises adaptées, sont des lieux nécessaires. Pourquoi ? Parce que ce sont des lieux qui sont soucieux d'adaptation à des profils, à des silhouettes, à des visages humains. On en a besoin. Si vous voulez, la vision, moi je ne suis pas dans une vision d'inclusion qui serait dogmatique, mécaniste et égalitariste. Je suis dans une visée inclusive qui s'accompagne. Et si on considère que les vies sont singulières, qu'on est inscrit dans la diversité, alors il faut faire des réponses singulières. Il y a des personnes en situation de handicap qui seront tout à fait capables de travailler dans une entreprise ordinaire, et elles sont très nombreuses dans ce cas. Il y en a d'autres qui ont besoin d'étayage, que des lieux plus préparés, plus encadrés, plus accompagnés seront leur donnés. Vous voyez, à la diversité des visages, il faut associer la diversité de l'offre.
Quel propos très direct diriez-vous aux candidats aux élections municipales aujourd'hui qui peut-être les aideraient à construire au lendemain de leur élection un mieux, un meilleur pour l'inclusion des personnes
Alors d'une part, on n'est pas sans savoir que la loi permet maintenant de donner le droit de vote. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, je leur dirais, reconnaissons pour chacun et pour tous le droit de vivre, d'exister dans la cité pour laquelle vous travaillez. La cité, la communauté humaine. Et avoir le droit à la citoyenneté, d'exprimer le droit civique, c'est se sentir membre d'une communauté humaine. C'est ça le fond des choses. Reconnaissons tous et chacun, plus ou moins fragile, plus ou moins blessé, comme un membre de la communauté humaine.
Merci beaucoup, monsieur le professeur.
Je vous en prie.
À un autre moment, ensemble.
Vous écoutez Radio B.
La chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse.
Amis auditeurs, cette émission se termine. À bientôt.